Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va essayer d'échanger autour de la diffusion des films. Alors on a la chance d'avoir beaucoup de personnes autour de la table. Je crois que c'est notre plus grosse émission en nombre d'invités. Du coup, peut-être pour commencer, on va faire un tour de table, je pense. Du coup, commencer par Guillaume Morel de Survivance.
Oui, du coup, Survivance, c'est une société qu'on a montée avec Karine il y a 5 ans, et l'idée assez vite était de coupler trois activités qui sont plutôt généralement dissociées au sein des sociétés de production audiovisuelle qui se montent, du coup d'allier production, édition DVD et distribution en salle. Voilà, du coup à la fois de produire nos films et d'en distribuer d'autres qu'on n'avait pas forcément produits mais qui nous plaisaient, qu'on voulait diffuser en salle de cinéma.
Est-ce que vous pouvez donner un... Je sais que vous, là, vous êtes au Vidéodrome pour fêter vos 5 ans. Est-ce que vous pouvez donner un petit exemple de ce que vous avez produit ou édité?
Bah Karine, tu peux peut-être parler des films que tu as produits.
Qu'on a produit. Donc là, bah, pour les 5 ans, on avait choisi de présenter dans les films, donc plutôt produits, 4 films qui étaient plutôt 2 de nos tout premiers films et 2 des plus récents. Donc dans les 2 premiers, il y avait Kelly et l'aventure est un secret, donc Kelly de Stéphanie Regnier et l'aventure est un secret de Pierre Linguonotto. Et puis, donc c'est des films qui ont été essentiellement vus en festival, qui ont été produits avec des petites chaînes locales, comme beaucoup de documentaires de création aujourd'hui. Et les 2 plus récents, donc... qui sont un court-métrage que Guillaume a produit, qui s'appelle Suspendu à la nuit et La nuit et l'enfant de David Yon. Bah, ce sont aussi des films, alors là pour la première fois, un film qu'on aimerait sortir en salle, qui est La nuit et l'enfant, et des films qui tournent aussi beaucoup en festival en ce moment.
Et la sortie en salle, vous avez sorti quoi?
Et la sortie en salle, on a sorti 3 films. On a commencé par un film thaïlandais qui s'appelle Mandaini Story, qu'on a sorti en 2012. Et en 2014, on a 2 fictions qu'on a sorties au cinéma, qui est Au revoir l'été, un film japonais de Koji Fukada, et Les bruits de récif, un film brésilien de Kleber Mendonça Filho, qu'on a projeté à Vidéodrome dans le cadre de ce cycle. Et la distribution est née avant cela de l'édition DVD, où on voulait remettre un peu sur le devant de la scène des films qui nous avaient marqués, qui étaient un peu difficiles à trouver. Voilà, les films d'Haroun Farhoki, Syndrome Zen de Century, de Vera Cetacool, Black Harvest, de Robert Connelly, voilà, des choses comme ça. Et le fait de remettre sur le devant, de diffuser des films en DVD, est né de là l'idée de la distribution qui nous titillait. Voilà, essayer de défendre les films aussi en salle. Du coup, c'était une autre paire de manches, une activité qu'on a un peu découvert.
Et pourquoi Survivance?
Survivance, ça fait référence, sans vouloir paraître trop philosophique, à la fois un texte qui s'appelle La disparition des Lucioles de Pasolini, voilà, ou dans lequel Pasolini constate le désastre de la pollution industrielle à Rome et la disparition des lucioles qui avaient desquelles il avait un souvenir émerveillé lors de sa jeunesse. Et du coup, il sent une espèce de climat pré-apocalyptique. Enfin, il voit dans cette disparition des lucioles une espèce de climat pré-apocalyptique. Et George D.G. Huberman, beaucoup plus tard, je crois que le livre date de 2006, dans Survivance des Lucioles, raconte qu'il se rend à Rome dans les années 2000 et qu'il constate qu'il y a encore des Lucioles. Du coup, il se demande pourquoi ce pessimisme de Pasolini à ce moment-là. Et D.G. Huberman voit dans la Survivance des Lucioles cette idée des petites résistances qui persiste et qui continue de vivre, voilà, parfois à la marge, mais qui continue d'illuminer de façon un peu pauvre, un peu à la marge, mais qui continue de briller. Voilà, du coup, c'était cette idée que on pouvait faire des choses, même si le climat était difficile, pénible, voilà, on pouvait toujours essayer de faire exister les choses. Voilà, du coup, c'était un peu cette idée-là.
Ok. Du coup, on va continuer le tour de table. Et une fois que tout le monde se connaîtra, chacun peut poser des questions aussi aux
aux différentes personnes. Du coup,
à vous. C'était mon tour.
Ouais.
Donc moi, je suis Jérôme Nunes de Film de Force Majeure. On est une société marseillaise créée depuis 2010. Initialement, on était uniquement sur de la production. Et depuis cette année, depuis le début de l'année, on s'est lancé dans une activité de distribution avec tout ce que ça implique. Donc effectivement, une sortie en salle. Sur un premier projet, donc un premier documentaire qui n'est pas produit par nous, qui est un documentaire belge qui s'appelle Before We Go de Jorge León. Voilà, et on est en train de développer cette activité avec en ligne de mire aussi deux autres sorties suite à celle-là, qui pour l'instant prend tout notre temps puisque c'est moi qui m'occupe du pan distribution. Et voilà, donc dans l'immédiat, on voulait vraiment être identifié en tant que distributeur comme on l'a été en tant que producteur, c'est-à-dire avec des films pas produits par nous mais qui correspondent à notre ligne éditoriale, au type de cinéma qu'on veut défendre. Donc là, il se trouve que ce film, on l'a pas produit, mais on va coproduire le prochain film du réalisateur. Donc on est sur une démarche où voilà, c'était assez troublant de voir un film qu'on aurait pu ou qu'on aurait aimé produire, disons. Et on s'est dit qu'il fallait l'accompagner, il n'avait pas de distributeur en France. On s'est rapproché et du réalisateur d'une part et de la production. Et on s'est dit que c'était un bon banc d'essai aussi de commencer sur un film fini pour aussi accompagner la coproduction du prochain long métrage. Voilà.
Et pourquoi film de force majeure?
Alors pareil, ça remonte à loin, mais en gros l'idée c'était aussi de le type de cinéma qu'on voulait faire, c'était voilà, la nécessité de ces films-là qui ne pouvaient pas ne pas exister et maintenant qui ne peuvent pas ne pas être distribués, c'est un peu l'idée quoi, de partir pas sur des films exceptionnels mais des films nécessaires vraiment, de se dire qu'on maintenant avec aussi une certaine vulgarisation du cinéma, l'accès à tout, aux formats numériques qui sont plus légers, donc il est plus facile de faire des films, et là vraiment quels sont les vrais les films qu'on tient à accompagner quoi. Du coup c'était voilà, partir sur quelque chose d'un peu une certaine radicalité aussi dans la ligne éditoriale, soit dans le propos, soit dans la forme, donc soutenir un cinéma qu'on ne voit pas ailleurs, on va dire.
Et vous venez de recevoir un prix, non, de jeunes producteurs?
Oui, vous avez des petites fiches. Ouais. Ouais, on a eu un prix, le prix France Télévisions Jeunes Producteurs, qui est un prix qui existe depuis 2 ans, qui est remis donc par France 2, France 3, qui regarde les sociétés de moins de 5 ans, de moins de 5 ou 6 ans, je ne sais plus, par rapport à leur politique de court-métrage. Donc nous, évidemment, on a commencé par le court. Logiquement, même si très vite on voulait faire du long, donc très vite on a développé aussi des projets, mais chronologiquement on a commencé par des courts. Et donc là il y a plusieurs films en lice, plusieurs sociétés pardon en lice, et ensuite il y a une sorte d'oral assez formel où voilà, ils rencontrent les associés de la société. Donc il y avait moi et Jean-Laurent Xenidis qui est le gérant de FFM, et là voilà, selon leur subjectivité, ils regardent un peu ce qu'on a fait pendant les 5 dernières années, ce qu'on a prévu de faire pour les 5 prochaines années. Et pour nous, c'était très clair que même si on passait au long, on continuera à faire du court, qui est aussi une école, une façon d'apprendre à travailler avec les réalisateurs et une forme à part entière qu'on ne veut pas laisser de côté une fois qu'on sera passé au long. Donc voilà, sur la politique des 5 années à venir, on a reçu ce prix.
Mais ça veut dire que les films que vous produisez passent sur France Télévisions?
Alors ça veut dire, en fait, le prix, il y a deux aspects du prix. Il y a un aspect, une dotation pour la société, et il y a un deuxième aspect sous forme de préachat. Donc ils ont un regard très attentif sur un prochain film qu'on leur propose, sur le prochain court-métrage qu'on leur propose. Donc voilà, en gros, c'est un préachat d'office par France 2 ou France 3.
Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais un de vos films produits qui a été passé sur France Télévisions?
Si, on a eu un préachat pour un court-métrage France 3, au tout début de la société, à travers 2012. Et après, on a travaillé pas mal avec France 3 Méditerranée. Donc là, c'était plutôt des achats, des acquisitions pour la nuit du court-métrage en Méditerranée, je crois que ça s'appelle, où on a passé Ramallah de Flavie Pinatel, sur la thématique de la Méditerranée, donc. Et la transition est toute trouvée pour... parce que le film est passé chez Images de Ville, à Luc Joulet, à ma droite, si on veut transiter.
Alors Luc, Joulet, qui êtes-vous?
Moi j'ai co-fondé donc, sur une idée de Bruno Jourdan, Images de Ville, qui a vu le jour en 2003 à Aix-en-Provence, qui est une structure culturelle dont le vaisseau amiral, je dirais, de l'activité, ce qu'a généré la création de la structure, c'était la création du Festival du film sur l'architecture et l'espace urbain. Donc un festival de cinéma sur une thématique bien particulière, refusant d'emblée de s'inscrire dans le champ des festivals à compétition, jury, etc. Mais voilà, cherchant à ouvrir une démarche culturelle à la fois de valorisation de la création cinématographique de tout genre, de toute époque, de toute géographie sur la question urbaine, et puis de favoriser la rencontre entre deux disciplines qui n'avaient pas forcément l'occasion de se rencontrer, mais qui avaient pourtant des choses à partager, l'architecture et le cinéma, et puis plus largement de faire du festival un espace culturel pour renouveler un petit peu la manière d'aborder la question urbaine, qui est quand même une question maintenant de société à l'échelle de la planète, puisque en 2008, la population mondiale est devenue majoritairement urbaine, alors qu'elle était rurale jusqu'à présent, donc ça nous semblait suffisamment important pour que sur une question de civilisation, le cinéma qui est né en observant l'émergence de la ville moderne et qui n'a eu de cesse de l'accompagner dans tous ces développements, que le cinéma soit un peu le point de départ pour une nouvelle approche de la question de la ville, une approche non pas politique ou technique, mais plutôt culturelle. Donc ça, c'était la vocation initiale, le projet premier, mais avec une volonté au niveau de l'activité générale de la structure, d'accompagner l'ensemble du champ de la création cinématographique depuis l'accompagnement de projets. Pas forcément se lancer dans une activité de production au sens économique du terme, mais plutôt partir du constat que les auteurs ont peut-être besoin à un moment donné d'un accompagnement, d'un encadrement, d'un lieu pour que les projets, les idées se développent et se consolident. Ça s'est articulé notamment avec, comme le disait Jérôme, une section qu'on a ouverte dans le festival il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, où on fait du festival aussi un lieu d'accueil de films en cours de fabrication. C'est un festival, il nous semble, ça ne sert pas uniquement à montrer des films terminés, mais ça sert aussi à des auteurs de venir présenter un film en chantier, un film en fabrication. Et donc la structure se veut couvrir tout le champ depuis l'accompagnement de projet jusqu'à la diffusion. Alors la diffusion par l'intermédiaire d'événements festivaliers, mais aussi de l'édition DVD, mais aussi d'autres axes qui peuvent voir le jour. Donc la structure existe depuis 13 ans maintenant, le festival en tout cas existe depuis 13 ans. S'est développé sur Aix pendant 10 ans, a mis un pied à Marseille à l'occasion de l'année 2013, et là, pour l'année 2015, cherche à nouveau à grandir un peu sa carte. Rapidement.
Et en résidence, avec qui vous avez travaillé, je sais qu'il y a Gilani maintenant.
Alors, pour l'instant, on accompagne 5-6 projets documentaires. Par exemple, le prochain film de... Bien que le projet est une société de production, mais on va l'accueillir en film en chantier, puis on verra de quelle manière on pourra prolonger cet accompagnement. Donc le prochain film documentaire de Régis Sauder, Retour à Forbach. On accompagne un projet d'Emmanuel Vigier et Lionel Kasparian qui se déroule, dont l'action se déroule principalement à Aix-en-Provence, un projet de Séverine Mathieu. Et puis effectivement, on se lance là dans une expérience un peu plus développée de résidence de cinéaste. Par l'intermédiaire justement de Tard, on avait eu la chance de rencontrer Gilani Saadi. Gilani Saadi, un cinéaste tunisien, et lorsqu'il est venu aux rencontres des cinémas arabes en début d'année, Gilani m'avait envoyé un scénario de long métrage qu'il avait écrit il y a quelques années, qui ressortait notamment après les attentats de janvier à Paris et qui était dans le thème du festival de cette année. Donc on est en train de monter avec Gilani l'expérience d'une résidence autour de son scénario qu'il veut reprendre, dont il veut reprendre l'écriture et de monter, notamment avec des étudiants en cinéma et en urbanisme, un workshop à Port-de-Bouc autour du scénario de Gilani pour essayer de voir si sur ce territoire, le personnage principal du scénario, qui est un grand ensemble, une cité, pourrait exister à Port-de-Bouc. Voilà. Donc on est vraiment là dans l'expérimentation, dans la tentative, mais qui correspond vraiment au projet culturel du festival d'Images de Ville en général.
Et tu es aussi réalisateur, ouais. Produit par Shellac et bientôt, enfin distribué aussi par Shellac. Et votre dernier film sort quand en salle?
Mercredi.
Mercredi. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce film?
Bon, c'est un film qui poursuit l'exploration. C'est un travail qu'on fait à deux avec un ami avec qui on a fait nos études de cinéma ensemble à Paris 8. Et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on a commencé une exploration cinématographique du travail. Et là, donc, c'est le troisième film. C'est quoi ce travail qui est un film qui cherche à explorer un peu la part de soi que l'on engage dans le travail. Et c'est un film qu'on a réalisé à l'occasion de la résidence d'un compositeur de musique contemporaine, Nicolas Frise, et qu'on a accompagné dans sa résidence, dans une unité de production du groupe PSA à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et on a profité de cette résidence, non pas pour faire la chronique d'une création artistique, mais plutôt pour aller chercher, explorer cette question, autant dans le travail artistique que dans le travail de la production industrielle, qui est un peu le travail inversé d'un travail d'artiste, parce que là, le travail, par contre, n'est pas libre du tout, tout est prescrit, standardisé. C'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse faire le travail à sa manière, et pourtant, voilà.
Et mercredi, tu sais dans combien de salles tu sors le film?
Exactement, non. Il y a une vingtaine de copies, je crois, une petite vingtaine de copies. Qui sont...
voilà. Après, t'as archi kawaii.
Tu veux que je parle de quoi?
Présente-toi.
Moi, je suis en distribution moi-même. Parce que ça fait 2 ans et demi que je suis là. J'étais en Tunisie donc comme enseignant, aussi, animateur de ciné-club. Et là, ça fait 2 ans et demi que je m'occupe d'une association. Mais c'est fini là. Donc j'ai organisé trois sessions d'un festival international qui s'appelle les Rencontres internationales du cinéma arabe. Et maintenant, je passe à autre chose. Je viens de créer une association qui s'appelle Archipel Images, dont la vocation est aussi je ne sais pas quel mot utiliser, parce que là, j'ai entendu distribution, j'ai entendu diffusion, j'ai entendu accompagnement. C'est des mots, il y a des mots qui sont plus récents, qui correspondent mieux à ce qui se passe maintenant. Je trouve que distribution, c'est un mot un peu ancien. Là. Ça correspond à quelque chose, à mon avis, qui est un peu désuet. Là. Je me mettrais plutôt du côté du fait que je suis un programmateur, je suis critique de cinéma, je suis animateur. Le mot que me conviendrait personnellement le mieux, ce serait celui d'accompagnement. Et je pense qu'il est aussi peut-être le plus adapté à ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit. Parce que la distribution suppose déjà régler le problème de la production. L'idée même de production n'existe pas. Le SEM de la production n'existe pas. C'est distribué, il y a beaucoup de gens, il faut que je donne à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que la matière existe et que la diffusion, c'est un peu volontariste, c'est quelque chose qui part Là, il y a plus l'idée de la production, c'est-à-dire une instance qui émet, qui diffuse, qui... Voilà. Je comprends que ça soit venu un peu après. Et ça, c'est encore difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait jusqu'ici dans les rencontres, et ce que je voudrais faire plus maintenant avec cette nouvelle structure, c'est accompagner, faire circuler, faire tourner des films, mais les accompagner en essayant de combiner aussi plusieurs choses à la fois, parce que les barrières, enfin... je ne sais pas. En tout cas, pour un type de cinéma aujourd'hui qui me semble le plus intéressant, Les mots production, diffusion, exploitation, enfin, c'est des mots qui me paraissent totalement inadaptés aujourd'hui. Donc l'idée, en tout cas, mon idée à moi, c'est de... mes amis et moi, c'est de chercher des films, de les détecter. Ils existent, hein, mais on ne les voit pas. Enfin, les films, ils existent, on ne les voit pas, on ne les voit plus. Le système ne montre plus. Enfin, le système établi, on va dire, ne permet plus, pour des tas de raisons, de voir ce qui se fait d'intéressant, à mon avis. Donc, il faut aussi les chercher, les détecter, les sélectionner, les regarder, comprendre, les comprendre au sens étymologique, les prendre avec soi, quoi. Et les prendre et puis tourner avec. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire aujourd'hui et qui va peut-être, avec le temps, peut-être ensuite donner autre chose de plus institutionnel. Je ne suis pas un fanatique de la marge ou de, je ne sais pas, dans un radicalisme comme ça un peu. Mais je pense que beaucoup de choses sont en train de se jouer en dehors maintenant, en dehors des systèmes qui diffusent, quoi, qui sont dans la distribution, quoi,
des systèmes. Et pourquoi aujourd'hui cette prise de conscience sur...
Moi, je pars de quelque chose de très simple et de très concret, hein. C'est des films que j'aime, que j'ai vus, on peut en parler, hein. Je connais des films que j'aime.
Mais pourquoi aujourd'hui plus qu'hier, cette question-là ?
Parce qu'il me semble que, en fait, c'est pas la production qui détermine la distribution aujourd'hui. C'est le contraire. C'est un peu comme le capital financier, quoi, par rapport au capital industriel. Enfin, je crois qu'il y a une logique de la circulation, de la marchandise, qui impose son diktat à la production proprement dite. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est produit qui est forcément appelé à circuler, c'est ce qui circule déjà, ou ce qu'on croit qui circule déjà, qui doit recirculer tout le temps. Et on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait que beaucoup, beaucoup de gens sont complètement évacués du champ de la distribution et qui sont essentiels. Enfin, de mon point de vue, quand moi je vois des films, je vois le film de Racine Salah, zéro distribution, je sais pas, le film de...
Bah, c'est bien film... que tu en parles parce que...
Non, mais attends, le film de Tigia, pourtant il a une espèce de notoriété maintenant, il est connu. Le film de Gilani, ça a dit que si je l'avais pas, enfin si on l'avait pas montré dans les rencontres, enfin on n'en parle pas, on ne les voit pas. Les films de beaucoup de jeunes, les mineurs, Amal Roja, les films, enfin je vois des films français, des films italiens, hein, enfin il y en a plein. Moi je te parle de ce que je connais le mieux et je trouve que c'est des films qui disent des choses, c'est des condensés de sens, d'émotions, de forts qui sont en train de nous dire des choses fortes sur notre époque à travers le cinéma, à travers l'anglais du cinéma. Ils ne sont pas vus, ils ne sont pas regardés, ça n'intéresse pas les gens, parce que la distribution ne fonctionne pas du point de vue de ce qui est proposé comme production. C'est ça. Et ces gens-là, quand on s'adresse à eux, quand on parle avec eux, si ça se trouve, parce qu'il y a une espèce de cynisme comme ça, très ambiant, ils les voient. Tu montres le film, tu viens, grand distributeur, regarde, Chantier A, c'est un film absolument formidable, regarde le regard qu'il porte sur l'Algérie, comment il déplie ce pays, qui est complètement replié, qu'est-ce qu'il est en train de dire sur le monde, etc. Il te dit, oui, je vois bien, etc., mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, je ne le prends pas. C'est le cas de plein de... Il y a plein de cinéastes. Alors, à la fin des années, ça a commencé à la fin des années 90 avec des cinéastes qui étaient déjà connus. Idrissa Ouedraogo, par exemple, ou Burkina Faso. Moi, je me souviens, à une époque, il faisait la une des journaux. Jacques Chirac l'invitait le 14 juillet à l'Élysée, etc. Aujourd'hui, c'est un inconnu. Enfin, je veux dire, c'est un légume. Là, il passe son temps à boire, etc. Complètement, il n'intéresse plus personne. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Donc je me dis que, en tant que moi, je suis critique au départ. Ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter une parole sur des films. C'est-à-dire de produire un discours qui pourrait donner un éclairage personnel, différent, original, enfin en tout cas personnel, par rapport à quelque chose qui existe. Et ce geste-là n'a plus de sens pour moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je me retrouve dans la situation de parler d'un film, je me rends compte que je lui donne une visibilité. C'est-à-dire que je l'accompagne, que je le prends avec moi. Et du coup, mon geste change complètement. Et je ne me vois pas parler d'un film si je ne l'accompagne pas, je ne le montre pas en Italie, en Égypte, en Tunisie, en Algérie. C'est ce que je compte faire d'ailleurs. Notre prochain projet, c'est ça. Je vais prendre 6 films, un film italien, un film français, un film algérien, un film égyptien, un film marocain, un film libanais. Et puis, voilà, ça y est, c'est fait. Pendant toute l'année, on va circuler avec cet ensemble de films-là, avec des partenaires qui sont conscients de ce que je... Enfin, qui partagent un peu le point de vue que je suis en train d'exprimer, pour essayer de montrer, d'accompagner, de parler de ces films, de rencontrer le public. C'est vrai pour... Ce que je dis pour les films, c'est vrai pour le public aussi, parce qu'il ne vient pas naturellement, le public. Il faut aller aussi...
Là où je vous rejoins un peu, c'est le discours de « ça ne marche pas », en fait, pour les distributeurs ou les gens qui font de la diffusion. C'est un discours auquel on se heurte énormément, et je pense plus aujourd'hui que par le passé. C'est-à-dire, on rencontre des gens, des salles, etc., et on nous assène le discours de « ah oui, mais non, mais ça marche pas, ah oui, mais non, c'est difficile », y compris par des gens qui devraient soutenir un cinéma, justement, qui raconte le monde et qui nous éclaire sur le monde. Et aussi, c'est vrai qu'il y a le système de la distribution installé qui est un peu oppresseur. Nous, on l'a vécu, on a eu des expériences où, par exemple, c'est pas vrai, le « ça ne marche pas ». Vous avez un film, Les Bruits de Récif, qu'on a sorti, qui fait, au Balzac, plus d'entrées que les deux autres salles réunies, qui fait un carton en première semaine. Mais en deuxième semaine, on nous dit « ah, mais on peut pas le garder parce que, pour un tas de raisons qui sont des raisons de stratégie, du réseau de distribution en lui-même, etc. » Et qui font qu'il faut imposer des films qui sont les films qu'on a décidé qui allaient marcher et qui doivent marcher, etc. Et cette bataille est très, très difficile. Donc même quand on arrive à avoir du public, même quand on arrive à passer cette barrière et à accompagner les films et de sentir que ces films racontent quelque chose au monde, c'est très difficile de rester et de continuer à exister. Et il n'y a que avec... Enfin, j'ai aussi travaillé longtemps sur Mafrouza, qui est un film... S'il n'y avait pas eu un énorme travail d'accompagnement sur toute la durée du film, en toute l'exploitation, etc., c'était impossible à sortir aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus... Et on nous a tous dit, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire, on comparait Mafrouza à L'Ouest des Rails de Wang Bing en disant, c'est à cause de la durée des films, en disant, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation et on ne peut plus faire 10 000 ou 20 000 entrées avec ce film-là si ce n'est pas avec un énorme travail d'accompagnement et de suivi. Et enfin, quand on dit ces films sont difficiles ou ces films on peut pas, ça marche pas, etc., Mafrouza, c'est un film montré avec le système lycéen-apprenti, où il y a eu des ovations de lycéens des quartiers à Aulnay ou de quartiers populaires, donc c'est pas vrai.
Oui, ça marche pas pour la vitrine, ça marche pas pour vous.
Mais ça marche.
Ben oui, c'est ça le problème, c'est ça. Enfin, je veux dire, entre la réalité des choses et ce qui... C'est ce que je disais par rapport au capital financier. Le capital financier, qu'est-ce qui marche dans le cadre ? Pas de production, de richesse, il n'y a rien. C'est de l'argent qui circule comme ça dans le vide, quoi. Il n'y a pas moyen pour de l'argent qu'on peut investir pour produire. C'est une espèce de valeur comme ça, artificielle. Mais par expérience, moi-même, moi, je ne suis pas distributeur, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais j'ai bien vu que des films, entre guillemets, difficiles, hermétiques, etc., je les ai montrés dans des collèges, dans des lycées, dans des quartiers difficiles, quartiers nord, avec des primo-arrivants, etc. J'ai discuté, les gens, ils prennent les films, ils prennent les films, ils en parlent, discutent, ça les intéresse. Enfin, je veux dire, voilà, mais ça, c'est pas ce qui est réel qui domine, forcément. C'est non, pas ce qui marche réellement qui fonctionne dans le système.
On est dans une situation assez paradoxale où finalement le public peut être beaucoup plus ouvert que le milieu du professionnel qui est censé défendre.
Évidemment, mais c'est évident. Je vais dire ça.
C'est une situation où le public qui est beaucoup plus ouvert n'est jamais comptabilisé par les instances qui disent si ça marche ou pas. C'est tout le problème du plateau doré, c'est le problème des programmateurs de télé comme des exploitants, c'est-à-dire j'offre, censé offrir aux gens qui sont intéressés un truc qui est déjà complètement fermé. Parce que moi, je partage un peu le parcours de Boudard, c'est-à-dire à cet endroit de...
Donc Julien Courbex.
D'être nourri par la créativité contemporaine, en fait, qui, à mon avis, met en branle les terminologies classiques de distribution, mais même de cinéma et de film. Qu'est-ce que c'est un film aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est toute cette toute cette pensée qu'on n'a pas réitérée. Il y a eu dans le champ de la vidéo une réflexion un peu sémiologique sur les nouvelles écritures. Aujourd'hui, vu la pluralité des sources, des inventions qui sont à l'œuvre dans des films, en revanche, ça bruite de partout, ça pousse de partout. Je trouve que nos expériences tous, enfin les endroits où nous sommes tous, parlent de ça. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, je ne suis pas certain qu'on aurait pu discuter de manière aussi ouverte, simple, comme ça, que les films que nous aimons, que nous faisons, transitent par tous ces endroits où nous sommes. Et que c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, en fait. Que la bataille que vous pouvez mener pour la distribution et celle que nous allons mener, nous, à d'autres endroits, mais de concert. Enfin, on parlait tout à l'heure de la question de... C'est ce que tu évoquais, Karine. En fait, c'est simplement une question économique. En fait, on sait que les salles de cinéma au jour d'aujourd'hui vivent avec 5 films de la RSA, qui sont les 5 films porteurs, qui diffusent par ailleurs 350 films par an, et que sur les 350, il y en a 5 qui font une économie. L'arrivée du numérique a posé un espoir, mais qui a été rapidement déçu. C'est-à-dire que le milieu de la distribution pellicule a complètement calqué son fonctionnement sur le milieu de la distribution numérique, alors même que tout était inventé à cet endroit-là. Sauf que là encore, des portes se sont brisées et dans lesquelles on pousse très fort du pied, parce que ça veut dire l'entrée possible dans l'exploitation, entre guillemets, classique, de films qui n'avaient jusque-là absolument pas lieu d'être. Or, on voit bien que ces porosités, elles existent là, que le milieu des exploitants aussi, qui militent, je veux dire, enfin qui militent, qui ont envie de résister au gros, engagent un mouvement qui font que des boîtes de production comme les vôtres existent, que vous pouvez dire film de force majeure parce qu'il y a des films mineurs qui doivent exister et que tous ces films mineurs, nous, on les accompagne en les repérant. Enfin, je pense qu'on a une sorte de rôle de repère, comme ça, une sorte de lobbying social en disant regardez ça, voyez ça, d'accueil aussi. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'un certain nombre d'associations qui travaillent à la fois sur le soutien aux auteurs pour pas dire la production, sur l'accompagnement pour ne pas dire la distribution, et qui, dans des lieux précis, permettent à des gens d'en rencontrer d'autres, de travailler, de ne pas perdre espoir, et puis, ici et là, d'être produit une fois, d'être... Et je crois qu'on a fait tous cette expérience en tant que réalisateur, je suis moi-même réalisateur, c'est-à-dire d'être parfois soutenu de manière très classique, avec tous les budgets CNC qu'il faut, et puis, le lendemain, d'être complètement sec, à ne pas pouvoir faire passer un projet, et à être encore une fois dans une espèce de lourdeur, parce que c'est très long, c'est très lourd de faire passer un film. Or, il faut travailler. Enfin, je veux dire, si on ne se tient qu'aux espaces possibles de production, on arrête. Parce que les systèmes de production produisent des formes, et que si on veut bien travailler ça, il faut quand même qu'on ait des espaces pour faire exister les choses, et qu'en plus, c'est vraiment... Donc, je trouve qu'on est à la fois dans une situation extrêmement déséquilibrée et en même temps extrêmement porteuse d'espoir, parce que le rôle des festivals, ce que décrivait Luc tout à l'heure sur cet accueil des cinéastes, ce travail au long cours, expérimental, enfin je veux dire, tout ça sont des termes, moi j'y suis très attaché à ces termes. La manière dont des lieux comme le Vidéodrome, Polygone étoilé à Marseille, d'autres choses qu'on a pu faire à Lyon, travaillent à faire éclater les assignations à résidence des films, parce que ça aussi c'est un grand problème. On ne fera pas produire aujourd'hui, dans le système de subvention du CNC, un film dit expérimental. Bon, on peut poser la question de pourquoi. On passera jamais en salle un film, des films qui par ailleurs font partie du patrimoine cinématographique. Mais d'abord, un, le patrimoine est complètement laissé de côté. Et deux, si on va chez les artistes américains des années 60, qu'on produit des choses absolument magnifiques, qui font partie de ce qui est enseigné dans les universités, on ne le verra jamais. Donc c'est des lieux comme ça qui permettent de dire, et là je rejoins complètement ce que dit Tard, ce sont aussi des objets et des écritures qu'on a... relégués du côté de l'élitisme ou de je ne sais quoi, parce qu'ils sont assignés à des résidences qui sont évidemment des résidences qui n'accueillent pas les gens. Une galerie d'art vidéo, une galerie d'art contemporain, pas un truc ouvert sur le public. Le cinéma expérimental dans les caves, dans les milieux alternaux et de punk à chien, c'est pas un truc non plus qui est très... Donc il y a des espèces d'espaces comme ça où les choses remontent, viennent se coller à des films produits, des films... Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment un espoir, et que toutes les expériences qu'on fait sur le terrain, on a nous-mêmes, d'ailleurs il faudrait qu'on en parle ensemble, parce qu'on a nous-mêmes un projet de tournée comme ça, qui va essayer d'expérimenter une chose très simple, ce dont on parle depuis plus de 10 ans. On sait que d'un côté, il y a des exploitants qui commencent à se réunir, qui commencent à réfléchir à ça, et qui rentrent en dialogue avec nous, mais qui ont beaucoup de mal à travailler sur le terrain, le lien avec le public. Ils accueillent des films, mais encore faut-il... On met un film une semaine, 2 semaines, mais encore faut-il aller chercher les gens. Ouais. Donc faire le lien avec d'autres lieux, les médiathèques, les MJC sont aujourd'hui des lieux qui sont équipés avec des vidéoprojecteurs de bonne qualité, qui ont tous des petites salles. Il doit y avoir très certainement à cet endroit-là un lien à faire. Il y a une économie qui existe derrière. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que la majorité des festivals n'attribuent aucun argent aux films qu'ils montrent. Donc il y a une réalité économique derrière.
En fait, ça c'est faux.
Enfin, il faudrait regarder.
Les films cinéma arabe, vous payez les copies.
Non, mais je dis pas tous. Mais quand même un grand nombre. Les grands festivals.
Mais en fait, ça se négocie.
Je ne crois pas que ni Locarno, ni FID, ni. Bon.
En fait, aucun grand festival ne paye les copies, mais, mais la plupart des plus petits festivals payent les copies. Si ce n'est pas en compétition. Si ce n'est pas en compétition. C'est drôle de
logique. Mais ça, c'est. Voilà, je pense qu'à faire le lien entre ces lieux. Encore une fois, il n'y a aucune étude qui ne remonte au CNC par rapport à ça, parce qu'on ne comptabilise pas les spectateurs d'un festival, on ne comptabilise pas les spectateurs d'une médiathèque, on ne comptabilise pas. Et pourquoi ça n'existerait pas ? Enfin, voilà.
Il y a un travail actuellement où il y a certains distributeurs, des petits distributeurs, qui essayent de justement comptabiliser toutes ces diffusions alternatives et toutes ces diffusions non commerciales, entre guillemets, pour justement... faire valoir, mais c'est un énorme travail de comptabiliser tout ça, mais pour faire valoir vis-à-vis du CNC, des institutions, etc., finalement, le nombre d'entrées réelles qu'un film dans ce système fait.
Bien sûr. Juste pour rebondir sur ce que disait Julien et reprendre la question des mots dont parlait Tard, moi je pense qu'il y en a un qui devient effectivement de plus en plus évident, enfin qui se révèle lorsque l'on parle avec les gens. C'est la question de la médiation, quoi, comme tu le dis. Je pense qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Alors moi, déjà, j'y crois quand je fais des films. Je pense que, voilà, là, on va avec notre film qui va sortir, on va le répéter encore des dizaines et des dizaines de fois. Nous, on fait des films parce qu'on pense que le film n'est pas là pour porter une parole, mais au contraire, il doit servir à en construire une. Que le film, il est là pour ouvrir quelque chose et non pas la terminer. Que le film, à partir du moment où il se retrouve dans la salle, il ne nous appartient plus. Et que, voilà, il appartient à ce qui peut se jouer d'un point de vue culturel, etc. Là, ça fait 6 mois qu'on travaille, depuis que le film a été sélectionné au réel, à faire un travail de présentation du film à des publics scientifiques, des réseaux professionnels, etc., pour que le film dans la salle, ce ne soit pas nous qui le portions, qu'à la limite il ne nous appartienne plus, mais qu'il appartienne à des publics potentiels qui veulent se servir d'un objet artistique, d'un regard, pour voilà, se saisir d'une question, la mettre en débat, construire une parole commune, etc. Et pour en revenir au rôle que nous, on essaye modestement de développer, on en a d'ailleurs parlé il n'y a pas très longtemps avec les films de force majeure, mais aussi on le voit avec les exploitants, quoi. Bon, j'étais d'ailleurs sidéré l'autre jour, je rencontre à 2 heures d'intervalle le directeur du Mazarin à Aix et la directrice adjointe de la librairie Goulard sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. J'ai eu, mais au mot près, le même discours. Des gens en souffrance, qui ne peuvent plus faire leur travail, tellement ils sont submergés de propositions. Alors, je me méfierais un peu de rentrer dans le débat. Aujourd'hui, il y a trop de films, etc. etc. Je pense que c'est un faux débat. Mais en tout cas, au bout de la chaîne, pour ceux qui veulent un peu se donner de mal, les gens ne peuvent plus faire leur boulot. Le directeur du Mazarin me dit, moi je programme la moitié des films que je serai en mesure de présenter. Donc déjà il est obligé de faire 50%, d'en mettre la moitié dehors, et ceux qui l'accompagnent, il n'a pas le temps de faire ce travail de tissage, de découverte, de mobilisation de public, etc. Et je pense, on en a parlé avec Jean-Laurent et Jérôme il y a quelques jours sur un film qu'on a accompagné à Images de Ville que FFM a produit. Voilà, nous, on se rend compte que nous, dans notre mission culturelle, il y a sans doute un travail de cette nature-là à aller chercher des publics, à construire un public, à créer les connexions avec des lieux potentiels de diffusion. Ça peut être la salle commerciale, mais ça peut être aussi d'autres lieux, des écoles, etc. etc. Sauf que la grande question autour de ça, c'est comment ça génère une économie, quoi. Parce que on peut pas faire ça comme ça. C'est un travail au long cours, c'est un boulot qui peut prendre 6 mois. On l'a tenté, on l'a bien vu, par exemple, là, avec le dernier film d'Antoine Boutet, Sud au Nord déplacé. Nous, on avait envie de s'engager sur un film comme ça, parce qu'il est au cœur de notre démarche culturelle sur l'espace urbain. Et on voit bien que les exploitants, si on ne vient pas les accompagner, leur proposer la construction d'un public, l'organisation d'un travail culturel autour du film dans la salle, ils n'ont plus le temps de le faire. Ils sont économiquement comme ça, donc ils n'ont pas le temps d'employer des gens qui seraient en mesure de le faire, de solliciter des prestataires. Donc la question, c'est comment économie peut se construire autour de ça, parce que le besoin existe.
Luc, le problème, à mon avis, c'est qu'effectivement, derrière tout ça, il n'y a plus de pensée. S'il y a autant de films, pourquoi il y a si peu de salles dans ce cas-là? C'est-à-dire, on ne se demande pas pourquoi, à une époque, il y avait une salle et les gens, ils viennent nombreux regarder un film. On ne se pose pas cette question, qui aujourd'hui n'a plus de sens d'avoir une salle de cinéma, de juste se contenter de dire... mercredi prochain, on va projeter tel film et les gens, en masse, ils vont venir regarder ce film-là. L'époque a complètement changé. Les bouleversements sont considérables. Le rapport de celui qui regarde à l'objet qui regardait, du spectateur au film, a complètement changé. On le sait très bien, tout le monde le dit, mais on ne réfléchit jamais à ça. Pourquoi veux-tu que les gens ils sortent de chez eux, ils ont des ordinateurs, je ne sais pas quoi, ils ne regardent pas. Tout le monde regarde ce qu'il veut pour venir en courant à 2h ou 3h, prendre le métro, venir payer un ticket pour rentrer dans une salle de cinéma et regarder un film comme quand on va dans une église. Ça, c'est une autre époque. C'est une autre situation, c'est une autre configuration culturelle qui a complètement changé aujourd'hui. Je ne dis pas que les gens... Alors, on peut penser, c'est ce qu'on dit quand on est vieux, les gens ne s'intéressent plus au cinéma, etc. Ce n'est pas vrai. Les gens, ça ne les intéresse plus de sortir de chez eux en masse comme ça, aller dans une salle, comme dans une église, dans un temple, s'asseoir, regarder ensemble dans une espèce de communion comme ça, pour regarder un film, payer de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui va sans doute continuer à exister. Je ne sais pas, ça, moi, pour moi, c'est vrai, le lieu naturel du cinéma, c'est une salle de cinéma. Mais, enfin, les jeunes, les enfants, les vieux, etc., chez eux, ils regardent aussi des films. Ils peuvent regarder, tout le monde peut regarder. Ça a éclaté complètement. Donc, du coup, on peut imaginer que l'économie doit changer, que la configuration doit changer, et que la façon de montrer un film, évidemment, doit changer, qu'on ne doit plus s'accrocher comme ça de façon... idiote, débile, comme ça, obsessionnel à un type de fonctionnement qui ne correspond plus à ce que nous vivons aujourd'hui. Et la preuve elle nous est administrée à chaque fois qu'on prend un film difficile, un télo, je ne sais pas quoi, etc. Et que moi, je vis dans des centres sociaux, dans des structures sociales, des primoribonds, des gens qui ont des difficultés à s'exprimer. Je montre un film, mais attention, je montre un film, je suis avec eux, je discute avec eux, je parle avec eux, et du coup, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Je veux dire que c'est parce qu'on pense que quand quelque chose a fonctionné pendant un certain temps, ça existe. Enfin, si je devais utiliser une métaphore comme ça, un peu historique, mais puisée du monde occidental, pensons au Moyen-Âge, au 4e, 5e siècle, à l'époque où le paganisme régnait, etc., le christianisme rentrait, mais souterrainement évangélisait toute l'Europe. Les gens n'étaient pas chrétiens, ils étaient païens, mais c'était en dessous. C'est ça grouillait de partout en dessous. Mais ce qui était occupé, les lieux qui étaient occupés, c'était païen, etc. Et parce que c'était un changement, au 5e siècle, ça s'est réglé. Les choses ont complètement changé. Je suis absolument certain, personnellement, que nous sommes en train de vivre un bouleversement, à la fois culturel, technologique, intellectuel, enfin, le rapport à l'autre, etc. Aussi, le rapport, enfin, la rampe. La rampe, on a fait des tas de théories sur la rampe, l'écran, le spectateur, etc. Mais ce dispositif, on voit bien qu'il a complètement changé. Pour faire taire un élève dans une salle de cinéma pendant 1h30, il faut se lever de bonne heure. Hein. Il faut faire du boulot, il faut en parler. C'est parce que ce n'est pas la même chose que dans les années 60 ou 70. Et moi, quand j'organise des projections à la Maison de la Région, parce que j'ai aussi des gens très, très différents, parce que ça m'intéresse de mixer les publics, les anciens, les cinéphiles, etc., enfin, ils s'énervent, etc., contre les gamins. Mais tu sais, vous, enfin, ils sont dans des états incroyables. Enfin, ils sont dans un autre rapport. Enfin, il faut bien comprendre que maintenant, le rapport n'est plus celui qui suppose une barrière entre celui qui produit une image et celui qui la reçoit et qu'il a. Celui qui reçoit, il participe, il veut participer. Il a déjà participé depuis déjà les années 40, depuis le cinéma moderne. Intellectuellement, tous les cinéastes modernes, ils ont fait participer les spectateurs au montage. Heurté, des correspondants, je ne sais pas, les Godard, machin, etc. Les gens dans leur... Déjà. Mais maintenant, ils participent concrètement. Le film, il le bidouille, il produit. C'est pour ça que moi, je ne peux pas envisager une action de culture, ou ce qu'on appelle, entre guillemets, l'éducation à l'image, sans faire participer un jeune. Si tu le fais participer, moi, je les fais participer à la programmation. Je les fais participer à la critique. Ils écrivent pas n'importe quoi. C'est pas une question de populisme. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Mais à partir du moment où il prend part, parce qu'il ne peut pas envisager culturellement de regarder quelque chose auquel il ne peut pas prendre part, qu'il ne peut pas modifier et changer. Et ben à ce moment-là, il peut se taire après une heure et demie devant un film, parce qu'il sait que ce film-là qu'il voit, eh bien ça peut être celui que lui il aurait fait, parce que lui il a fait à peu près la même chose. Donc je pense que ce travail de médiation dont tu parles, il est essentiel. Le rapport pour un distributeur ou un exploitant au public doit changer. Évidemment, ça nécessite aujourd'hui beaucoup de volontarisme, évidemment, parce que l'économie ne suit pas. Là, l'économie ne suit pas, il n'y a pas d'argent pour aller, tu vois, il faut aller amener les gens, il faut discuter, parce qu'il faut être passionné.
Tu as de l'argent sur des lignes budgétaires qui n'ont rien à voir avec l'objet de ton engagement, par exemple. Ce qui aussi pose problème, hein, mais oui.
Quelqu'un a dit, on sait tous, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et moi, ce que j'entends chez toi, en fait, c'est vraiment cette... Enfin, tu as parlé de communion, et c'était sous-jacent depuis un long moment. C'est-à-dire qu'en fait, on sous-estime absolument les gens. Enfin, par exemple, tu dis que tu travailles, toi, tu arrives à travailler dans les centres sociaux, dans les... À un moment donné, au travers d'une association, on a réussi à le faire avec d'autres personnes, jusque dans la rue, sans jamais être des magots, sans jamais le faire, sans jamais être non plus élitiste, mais on ramenait des bouquins, on ramenait des films, on ramenait des choses qui étaient évidemment soi-disant élitistes, incompréhensibles, trop intellectuelles, si bien qu'en fait, le centre social se retrouve le cul entre deux chaises, parce que apprécie le travail qui est fait et le voit sur le terrain, et en même temps est obligé d'aller demander de l'argent à des institutions. Enfin, on peut ramener ça au cinéma, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les institutions écrabouillent d'une main, en deux secondes, ce liant. On parlait de médiation, moi je déteste le médiateur culturel, cette question-là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est pas celui-là, c'est pas celui qui va aller éduquer la population, les pauvres petites gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ont besoin de nous, soi-disant. Donc je pense qu'on a vraiment besoin tous les uns des autres, et la question en effet de l'exploitant de salles de cinéma. On ne parle plus que d'exploitants de salles de cinéma. Quelqu'un qui est absent aujourd'hui, mais parce que je pense que David Dion voulait l'inviter lors d'une autre table, une petite table ronde, Emmanuel Vigne, qui tient le cinéma municipal de Port-de-Bouc, s'efforce parmi la quarantaine de salles de la région PACA. C'est l'un des seuls, parmi trois ou quatre salles, à oser inviter des réalisateurs boudés par le, soi-disant, boudés par le public, comme Jean-Pierre Mocky, comme Nolo, qui en effet parle... Alors il y a quelque chose qui me dérange un peu dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, il a c'est une ville anciennement, c'est une ville anciennement communiste, de chantier naval, et donc il y a une population qui est complètement démunie, et par contre, il y a des communautés. Chypriote, tout ça. Et donc du coup, Emmanuel, sans faire du démago, sans faire du... Il s'est dit, bon, bah, faut aussi peut-être que j'aille les draguer, les voir à travers ce qu'ils connaissent, ce qu'ils peuvent m'apprendre, et leur culture, en fait, tout simplement. Donc il y a quelque chose un peu communautariste comme ça qui me dérange, mais ça, c'est pour le taquiner. Voilà, je lui ai déjà dit, mais voilà, des mecs qui mouillent leur chemise en tant qu'exploitant de salle, ok, c'est une salle municipale, donc il y a quand même des financements autres. Une salle indépendante, il est affligé quand il, une fois par mois, il est affligé par les mains qui se lèvent quand on annonce un film, parce qu'il pourra faire tant d'entrées et qu'on boude absolument tous les autres. Si ce n'est Wiseman, oui, parce que ça s'inscrit dans un truc à travers 2013. Alors Frédéric Wiseman, vous voyez, on a montré Frédéric Wiseman. C'était pas difficile de le montrer plus tôt. Enfin, c'est une fresque, c'est tout simple, c'est tout facile, ça parle à tout le monde. La preuve, c'est que c'est uniquement présent dans les médiations, dans les lieux de médiation culturelle, c'est-à-dire dans les bibliothèques. Et donc voilà, moi je trouve que, en fait, du coup, ça donne la niaque. Et quand tu fais un film, tu dis au début, bon, de toute façon, la prod, elle va pas, peut-être pas pouvoir suivre, telle ou telle prod, elle va pas pouvoir suivre, donc c'est l'auteur qui doit porter son film. Alors, heureusement, c'est un peu moins lourd qu'une bobine. Quoique je regrette que ce soit pas aussi lourd que plusieurs bobines, parce qu'au moins, tu sens le poids des choses. Et c'est assez amusant de faire le tour de... Moi, j'ai malheureusement fait le tour de très peu de salles, mais c'est triste parce que... Enfin, c'est triste.
Parce que tu as fini un film Basseuil et tu es allé voir des exploitants pour leur demander si tu pouvais le montrer dans des salles de cinéma.
Très peu, parce qu'après, je me suis un peu arrêtée. J'aurais repris, hein, enfin, franchement. Et en fait, je voyais des personnes qui se retrouvaient. D'ailleurs, il y a une réunion à laquelle j'ai assisté parce qu'ils étaient en réunion. C'était dans le 9-3, c'était à Saint-Denis. C'était le fameux...
Ciné 104.
Merci. Non, pas Ciné 104.
L'écran.
Voilà. Et en fait, j'ai eu la directrice qui était très... gênée par mon appel, qui savait plus où se foutre, ouais. Qui m'a dit, écoutez, on va être en réunion tout à l'heure, venez. Bon, parce que j'étais pugnace aussi, hein, je l'ai un peu fait chier, quoi. Je lui ai dit, il y a plein de films qui attendent. C'est pas mon film, moi je m'en fous, il y a plein de films qui attendent, quoi. Et donc, voilà, on peut faire des choses ensemble, quoi. Et donc là, ils m'ont dit, oui, voilà, pendant la réunion, timidement, ben... Voilà, on est en train de créer une petite... Enfin, dans l'équipe, des personnes qui vont devoir travailler plus que les autres, enfin, plus que leurs heures, parce qu'il faut s'intéresser aux courts-métrages, enfin, aux films de l'ombre, à tous ces films, voilà, qu'on n'arrive pas, nous, à montrer parce qu'on est obligé de remplir les caisses à la fin du mois. Voilà, donc du coup, il y a une dimension sacrificielle. Vous êtes là, enfin, moi, je les regarde et je me dis... Voilà, ça, ils comptent ça en heures sup, ok. Pas payé, ouais, chaud. Bon, mais... putain, la passion, la flamme, le truc, quoi. Bon, voilà, moi, je trouve qu'ils ont fait un pas, en fait. Mais en effet, il faut des structures, il faut des personnes qui ont de la bouteille. Moi, j'en ai... Je suis toute petite, je suis un bébé là-dedans. Et donc, j'entends ici des personnes qui ont de la bouteille et qui... Et d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il faut... Soit faut s'endormir et je sais pas quoi faire, aller planter des choux ou alors...
Aller voir Cemetery of Splendor.
Ça, c'est vrai, tu l'as vivement conseillé à ton entourage. Voilà, non. Soit mettre le feu, mais de façon fine, quoi. C'est-à-dire réveiller ses lucioles, là, comme tu disais tout à l'heure. Mais déjà, je suis dans... Il y a un certain dépit, enfin... Je trouve qu'il y a quelque chose de très ambivalent dans les sensations qu'on peut avoir.
Enfin, je sais pas, parce que chacun aussi parle du point de vue où il est placé. C'est vrai, parce que c'est aussi des partis pris. Enfin, je veux dire, dès le départ, il faut décider. Je pense que dans la posture où nous sommes, se mettre au diapason du système, ça, c'est éprouvant. On ne peut pas. On ne peut pas tout le temps se positionner, se définir par rapport à ce système-là. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je pense que c'est ça. Moi, il y a des films que j'aime, je les défends. J'en parle et je les porte avec moi. Je vais à Alexandrie, je vais au Caire, je vais à Tunis, je vais à Alger. J'ai des copains qui pensent la même chose que moi. Il y a deux jours, j'étais à Arles parce que je préside un jury d'élèves. C'est des élèves, donc ils ont 15 ans, 16 ans. J'ai montré La Petite Vendeuse de Soleil, de Djibril Diop, mon bêtis. Je dis, on va regarder ce film. Enfin, j'avais fait une... On va regarder ce film, on va en parler. Petite Vendeuse de Soleil, vous savez à peu près ce que c'est. J'étais impressionné. Quand j'ai commencé à discuter avec eux, c'est des lycéens dans une petite ville perdue, etc. Et qui sont comme tous les jeunes, enfin, théoriquement, etc. Quand on a commencé à parler du film, hein, je dis bien, parce que, je sais pas, il y a des verrous, de fausses portes au départ, quoi. C'est ça qui rend difficile la perception. C'est quand on se donne le temps, je montre le film, il y en a qui m'ont dit, je sais pas, je me suis un peu ennuyé, etc. Oui, ouais, après tout, l'ennui, c'est normal. Hein. Le problème, c'est que pour lui, l'ennui, c'était pas bien là. C'est bien ailleurs, l'ennui, pas devant un film. Et quand on a commencé à parler petit à petit, mais je peux vous assurer, mais sans aucune démagogie de ma part, hein, c'est derrière moi. Hein, tu vois, évidemment, comme tout le monde, j'ai lu des choses, etc., sur le cinéma. Mais c'est vraiment la passion que j'ai, parce que ça me touche quand je vois un film comme ça, je suis ému. tout le temps aux larmes, et j'en parle, et quelque chose qui commence à circuler entre nous, et il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que, bon, l'occasion a été donnée, on l'a saisie, on l'a fait. Je pense que chacun, de son point de vue, à mon avis, il doit faire ce qu'il a envie de faire. Il le fait. Le système, c'est le Don Quichotte, c'est derrière nous. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, je suis certain, personnellement, que si nous avons raison, ça finira bien, un jour ou l'autre.
Par suivre,
c'est tout. Mais... Après, si vraiment on veut que ça soit tout de suite, un peu comme je ne sais pas quoi, là, on est dans une posture, effectivement, un peu compliquée, un peu difficile.
Une question, quand tu as cette envie de montrer, d'accompagner un film, voilà, de le montrer... Moi, j'ai un problème très concret. Voilà, je veux diffuser le film de Rassane Salab en France. Parfois, j'arrive même pas à voir un lieu qui m'ouvre les portes et pour après ensuite inventer quelque chose autour du film. Du coup, il y a cette simple question. Si toi, tu arrives à trouver à chaque fois une institution ou un cinéma qui t'ouvre la porte, parce que justement, j'ai l'impression, moi, le problème auquel je me confronte en tant que distributeur. C'est que parce que c'est ce que tu disais, ils croulent sous les films et ils n'arrivent plus à inventer ce rôle d'accompagnateur, de s'emparer du film. Moi, à un moment aussi, mon rôle de distributeur, c'est de dire à l'exploitant de salle, bah, emparez-vous de ce film et on invente quelque chose aussi.
Le GNCR, la CID, enfin, normalement, il y a des institutions qui s'occupent de défendre ce cinéma-là aussi. Ouais. Enfin,
et puis, il y a des régions qui ne sont pas à égalité. Enfin, tu vois, là, on a un film en Bretagne. Là, moi, j'ai été épaté par le réseau des Bretons. Mmh. C'est incroyable le nombre d'associations qui défendent le cinéma et le maillage du territoire. La structuration. Là, pour le coup, si tu veux, ils prennent en charge un maillage du territoire incroyable avec les médiathèques, avec les cinémas. Et donc, c'est un boulot de dingue qu'ils assurent en partie pour nous. Après, évidemment, ils demandent aussi une grande implication. De notre part, du réalisateur, du producteur, etc., d'accompagner le film. Alors, tu vois, on essaye d'inventer des trucs, ou si c'est pas le réel qui peut y aller, c'est la monteuse du film qui va y aller, ou c'est moi, la productrice, etc., pour les aider, pour partager, pour faire des choses, enfin, des discussions autour du film, etc. Mais c'est vrai que cette région, c'est incroyable.
Ouais. Mmh. C'est la seule. Enfin, la région centre a aussi développé quelques trucs par rapport à la...
Ouais.
Donc, si c'est vrai. Mais... Enfin, là, la région PACA, elle bénéficie absolument pas de ça. C'est même tout l'inverse, je dirais, avec les accompagnements. Ils sont... Et c'est surtout qu'il y a... Alors, bon an, mal an, ça peut donner des belles choses. Mais il y a aujourd'hui la question du médiateur. C'est quelque chose qui est produit aussi par la société. Il y a des jeunes qui sortent de fac, qui sont médiateurs. Mmh. Médiation culturelle, ça devient... Mmh. Et ce qu'on voit s'opérer, c'est à la fois... Tout à l'heure, tu as prononcé le mot ciné-club, qui semble être un archaïsme total maintenant. Alors, nous, on y est très attachés... Là, on est en train de travailler avec la Ligue de l'enseignement sur... Il se trouve que ça va être les 150 ans de la Ligue. On travaillait sur cette histoire des tournées de films, parce que c'est comme ça qu'ils en parlaient, des tournées de films, de cette éducation permanente. Alors évidemment, il y a le côté un peu curé laïque derrière, mais ce que ça voulait dire concrètement, c'est absolument incroyable. Ils géraient la plupart de tous les ciné-clubs. Les ciné-clubs, c'était appris que dans le Var, il y en avait 300 quand même. Donc c'était complètement délirant. Donc je suis sûr qu'on a des choses à reprendre de ce côté-là, qui ne doit pas revenir simplement en main à cette nouvelle génération de médiateurs qui, eux, répondent à une sorte de programme social, programme culturel, d'un rapport complètement vidé de sens et de politique sur le rapport aux œuvres. Et je crois que le fait que nous en emparions, nous qui faisons aussi des films, c'est possible pour donner du sens à ce que nous faisons. C'est-à-dire, à un moment donné, même si c'est... Alors évidemment, c'est après, l'économie, c'est un grand problème. Je sais que nous, on a été souvent traité de barjot parce qu'on part comme ça sans rien. Mais il faut bien griller cette énergie-là pour que les choses soient entendues. Ça a ses limites, on ne peut pas faire ça. Donc il faut trouver une espèce d'équilibre fragile. Mais c'est aussi contrevenir à cette espèce de... Parce que je ne crois pas non plus en l'histoire de trop de films. Je m'interroge en revanche sur quel est le film de trop dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une culture du numérique... Enfin, je suis aussi lié à l'enseignement. Enfin, j'y vois un enjeu politique extrêmement important. Et évidemment, quand on commence à travailler avec des jeunes, on peut faire le constat d'une espèce de contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas une aporie culturelle, il y a une sursaturation du même. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on va arriver à intéresser un jeune en face d'un film d'Haroun Farouki qui n'a eu aucune diffusion ni dans le cinéma, ni complètement dans l'art contemporain, surtout d'entre deux, et qui pose cette question extrêmement compliquée de comment pouvoir montrer une image et en même temps, dans le même temps, en prendre une distance. c'est-à-dire avoir d'entrée de jeu une espèce de regard critique. Quand il va être, alors on en a fait l'expérience, on me propose ça, évidemment, la référence, ça va être arrêt sur image, ça va être toute une sorte d'objet complètement triviaux par rapport au travail, mais parce que le lien n'est pas fait, qu'on a de cesse de parler d'éducation à l'image, et qu'il n'est jamais fait ce travail-là. Alors que d'autres pays bénéficient quand même davantage de enfin, je sais pas, je pense aux grilles, même les chaînes de télévision en Italie laissent plus de place aux jeunes créateurs.
Il y a une chaîne, il y a la Rai Tree.
Bah, il y en a une, mais c'est pas rien, en fait.
Et puis, il y a une personne, quoi.
Dans l'histoire, il y a aussi l'histoire de ça, de l'accompagnement, quand même, de la place de. Mais je pense des télévisions en Suède et en Norvège qui laissent vachement plus de place à ça. Ouais. En France, on est complètement exsangue, quoi. Ouais. C'est-à-dire que. Enfin, complètement.
Oui et non, parce que même dans les télévisions suédoises et norvégiennes, en ce moment, c'est pas du tout. C'est en train de diminuer, de beaucoup, etc. Et là où par contre, la place de la France sur le maillage du territoire, sur les médiathèques, on a une place ultra privilégiée. Si tu discutes avec quand même pas mal de gens à l'étranger, ils sont quand même fous que même dans un petit bled de la campagne française, on arrive à voir des films de cinéma. Oui,
le maillage des salles est énorme. Incroyable. Il devrait aussi permettre quand même.
Mais ça, c'est la culture, ça. Ça, c'est culturel.
C'est évident.
Je connais l'Italie, etc. Mais ce qui trompe en France et qui est très compliqué, c'est que c'est culturel. C'est pas artistique, c'est culturel. C'est la culture, quoi. C'est quand on s'empare d'objets artistiques pour en faire un pouvoir, enfin, politique, quoi.
C'est le film de Godard. La culture, c'est la règle. Et l'art, c'est l'exception.
Et il dit aussi.
Et la règle a vu la mort de l'exception.
C'est la diffusion, d'ailleurs. Et l'art, c'est la production aussi. Il dit ça aussi. Et ce qui n'est pas faux. Il n'est pas le seul à le dire.
C'est des coquilles qui nous servent.
Voilà, c'est devenu des coquilles.
C'est sûr qu'on peut habiter.
Voilà. Mais ça passe parce que ça peut rassurer, ça. On peut se dire oui, ça va, etc. Et là, on voit bien que les salles, elles ferment aussi. Qu'elles ferment.
Moi, j'avais une question pour Guillaume. Enfin, tu connais aussi le travail de Rassane Salab, donc La Vallée, qui est un film d'anticipation au Liban.
Oui, on peut dire ça.
Je ne l'ai pas vu.
Tu en parleras sûrement mieux que moi. Et par rapport à l'actualité, je me dis que c'est un film brûlant, enfin, qu'il faut montrer aujourd'hui. Ouais. Ça va permettre de comprendre des choses, de faire débat. Et quand tu le proposes aux salles, on te dit c'est trop difficile.
C'est un peu tôt encore de faire un bilan, ouais. Mais voilà, je sens aux premiers envois que quand je commence à envoyer le film, que c'est pas évident, quoi. Que
pour
les programmateurs, pour ces réseaux de salles type GNCR ou ACID, c'est pas évident de s'emparer de ce film. Alors pourquoi les raisons sont multiples. C'est vrai qu'ils ont plein de films, il y a une pression industrielle qui fait que c'est beaucoup plus évident de soutenir le film qui était à Cannes, identifié, porté par un gros distributeur, etc. Le système fait que c'est beaucoup plus évident de porter ce film-là. Voilà. Du coup, voilà, je très concrètement, oui, pour moi, c'est un film évident qui parle de plein de choses, de ce qui se passe maintenant, qui est un film formellement magnifique. Voilà, que, si cette évidence, elle l'est pour moi, elle est difficile à défendre quand même. Voilà. Du coup, je me pose la question perpétuelle de voilà, comment faire en sorte que des lieux s'approprient ce film. Voilà. Du coup, comment, en tant que distributeur, pas être un simple tuyau, mais comme tu disais, être aussi un accompagnateur du film. Même si je pense que...
Et est-ce que, du côté de la distribution, vous avez travaillé avec d'autres lieux que les exploitants? Les médiathèques, les MJC, les...
Parce qu'on est producteur aussi, du coup...
Mais le film, vous avez les droits depuis quand?
J'ai les droits depuis juin dernier. Concrètement. Enfin, j'ai vu le film à Berlin en présentant.
Parce que moi, je n'arrivais pas à le montrer dans les rencontres. Je ne pouvais pas.
Tu as demandé les droits à
qui? Tu penses bien. Il était là pendant tout le festival et tout. C'était impossible d'avoir le film. Alors, moi, je veux bien comprendre pourquoi dans des rencontres.
À quel moment?
C'était en avril.
En avril, j'imagine.
Il y avait un vendeur international. C'était pas pour la France. C'était
ici, à Marseille.
À Marseille.
C'était pas l'international, oui.
Bah, je crois qu'ils cherchaient un distributeur.
Libération, il y avait Le Monde, ils ont écrit sur Gilani, etc. Le film, il aurait pu. Mais rien à faire, il m'a dit tard. S'il te plaît, n'insiste pas, laissons tomber. Il ne m'a pas expliqué. Mais voilà une question que je me pose, moi.
C'est la même question que les festivals et leur exclusivité internationale, mondiale. Quoi. C'est la même question
de distribution. La première question qu'on se pose, soit pour les films qu'on a produits, soit qu'on distribue, c'est la première nationale, première internationale. Après, je ne connais pas ni le film, ni le distributeur. Mais c'est toujours la question de l'exclusivité et de quelle sera le meilleur porteur de
non, il allait être montré à La Rochelle, mais il n'avait pas encore été montré en France.
Oui, ce que des critères, c'est intéressant, parce que c'est le seul endroit où on est mis en situation de confrontation, et qui me semble complètement stérile. C'est-à-dire que le film puisse être montré dans un festival organisé dans une ville de Marseille, que ça puisse mettre un problème dans le circuit de la distribution, ça me paraît complètement délirant. Sachant que... Alors nous, ça fait des années qu'on joue avec ça, qu'on se titille les uns les autres. David nous a fait la même avec le film que vous avez produit. Donc on change les titres. Alors il ne faut pas le dire, on change les titres pour les trucs, pour savoir que nanana, nanana. Mais là, il y a une espèce de... rond de boudin.
C'est pas un jeu.
Ben non, c'est un jeu idiot, en fait.
C'est un jeu idiot, mais c'est un jeu où, par rapport à la distribution salle, où en fait, effectivement, si le film est vu à tel festival, etc., et si le fait qu'il ne puisse pas y être vu parce que tu l'as montré ailleurs va gêner la distribution,
Moi j'ai des exemples, d'autres exemples, hein, beaucoup d'exemples, parce que c'est des films, il y a un film égyptien là que je vais faire circuler avec les six films dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle The Mother of the Absent de Salib. De Nadia Salib, qui est un premier film documentaire, mais absolument incroyable. Quand on sait ce qui est montré aujourd'hui, hein, j'ai rien contre Je suis le peuple, c'est un film évidemment que j'aime bien, quoi. Voilà, qui a été un site et tout, qui tourne, etc. La cinéaste, elle est sympa, le propos n'est pas idiot, etc. Mais quand tu vois ce film-là, qui se passe dans à peu près la même région, qui est de la Haute-Égypte, c'est un film sur l'avortement, mais c'est un film incroyablement bien fait. C'est un film incroyable. Quand je l'ai vu, je l'ai appelée. Elle était ravie, évidemment. Je pense que c'était un peu la première fois que quelqu'un de l'étranger, etc. Enfin, elle savait qui j'étais. Parce que elle m'a dit oui, tard. Et puis ensuite, elle m'appelle, elle me dit excuse-moi, tard, je suis vraiment gênée et tout. Je dis mais c'est quoi le problème? Elle m'a dit non, mais parce que je voudrais le montrer aux filles. On m'a dit c'est le cinéma du réel. Je dis écoute, moi, je ne cherche pas l'exclusivité. Moi, je veux le montrer. Si toi, tu as la possibilité de le montrer ailleurs, moi, j'ai fait mon travail. C'est bon, j'ai absolument aucun problème par rapport à ça. Débrouille-toi, il n'y a pas de problème. Un an après, là, plus d'un an, elle m'écrit de nouveau, elle me dit, ça y est, le film, il est sous-titré tard. Il est passé nulle part. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un système, il est comme ça, tu vois. On te dit,
oui,
et
puis on s'en
sachant
parle.
Je t'accompagne.
Il y en a plein, Batout. Brahim Batout, il est déprimé, tu ne peux pas l'appeler. Aujourd'hui, Brahim Batout, tu téléphones, il est absent. Aux abonnés, il n'existe pas, Batout. Il est complètement dans une dépression incroyable après son dernier film, enfin tous ses films. Ça ne marche pas. Tu vois, c'est quand même l'un des cinéastes, après Yousselyn Nassalala, majeur en Égypte maintenant, aujourd'hui. Quoi.
En réalité, moi, j'ai eu un grand moment de déprime, de dépression l'année dernière. Enfin, pas de dépression, quand j'ai beaucoup plus fréquenté les festivals, enfin les milieux des festivals, etc. Et que j'ai réalisé aussi dans quel jeu politique entre eux ils sont, et les festivals pour exister, pour avoir des financements, un tas de choses, sont dans des jeux de première, etc. Ouais. Et bon, alors, quand c'est Cannes, Berlin et Venise... Bon, à la rigueur, je peux comprendre, festival historique, machin, etc. Prestige du cinéma, tapis rouge, machin. Mais quand c'est tous ces festivals qui défendent une certaine forme de jeune cinéma, de création, etc., rentrer dans ces jeux-là, pour moi, c'est complètement stérile. C'est tuer les films. Un producteur qui essaye d'accompagner un réalisateur à faire son film, etc., et qu'ensuite, il faut rentrer dans tout ce jeu-là et qu'on est... Et que voilà, moi ça m'a traumatisé, hein, oui, franchement. Et alors en plus, comme j'ai pas la langue dans ma poche, je peux me fâcher gentiment avec les gens ou pas gentiment. Mais c'est hyper dur en fait. C'est violent. En fait, c'est plus violent ce rapport-là avec les gens des festivals, je trouve que finalement, même, enfin bon, je suis pas comme Guillaume, je me tape pas les salles.
Autre chose en Tunisie, là, c'est des exemples évidemment un peu particuliers, peut-être qu'ils sont pas généralisables. En Tunisie, on a un distributeur mais puissant. C'est pour expliquer un peu cette question de pouvoir, de l'argent du distributeur, quoi. Comme il est puissant, il tient le marché. Il y a de petits distributeurs qui essaient de montrer des choses. Il sait qu'ils sont là, il a peur de qu'est-ce qu'il fait. Il va acheter les films dont il pense qu'ils seraient achetés par les petits distributeurs. Des films intéressants. Il les met dans le tiroir. Il ne les montre pas.
Ah oui.
Il ne les montre pas.
Il les pécardise.
Juste... Voilà, c'est juste pour bloquer les autres. C'est un système. C'est la spéculation. Ben bah oui, mais c'est ce que je dis, capital financier. Enfant, quand je te dis capital financier, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire, c'est plus le film qui compte, c'est pas le fait de le montrer, c'est le pouvoir que peut te procurer si tu vois l'existence d'un film dont on sait qu'il est intéressant, le film de Luc Joulet. Ça fait un moment, moi, je l'ai vu. Mais quand même, moi, je trouve que quand même, il y a du retard. Hein. Ça fait un moment. Enfin, je veux dire, tu fais un film,
On peut peut-être parler de ça, parce que la temporalité du cinéma et de la distribution, en règle générale, elle dépasse l'impatience des réalisateurs et même des producteurs. C'est-à-dire que nous, on est les premiers aussi, une fois que tu as pu financer ton film, une fois que tu l'as fait pour le sortir, et on se rend compte, là, moi, à l'échelle où j'en suis pour la première sortie, non seulement il y a tous les pourparlers de la signature du mandat de distribution, puisque nous, on n'est pas producteurs de ce film-là. Ensuite, il y a toute la stratégie. Nous, on est des petits distributeurs, donc on va vraiment démarcher et les salles et ce que vous disiez, c'est-à-dire le circuit aussi alternatif. Comment on prépare ça? Comment est-ce qu'il faut respecter aussi la chronologie des médias? Comment est-ce que tu mets t'envisages ta plateforme VOD après? Comment est-ce que tu fais pour qu'elle soit accessible qu'en France et pas à l'étranger quand tu as les droits que pour la France? Enfin, il y a tout un truc comme ça où nous, on est une petite structure et où on veut accompagner le film. C'est vraiment la volonté. Le mot est assez juste, mais par contre, on veut aussi jouer le jeu de la sortie en salle, donc je me frappe aussi les exploitants, les regroupements d'exploitants, avec tous les frustrations qu'on peut entendre, où on entend l'exploitant qui en tant que spectateur a aimé le film, qui aime beaucoup le film, qui soutient le film, mais qui va pas pouvoir le sortir pour les raisons qu'on disait, d'économie, ou alors nous il faut qu'on arrive avec un package en main garantissant de remplir la salle, ce qu'on fait par ailleurs, c'est-à-dire le travail de médiation, le travail d'accompagnement par des associations, de sorte à ce que sur la salle parisienne, où on sera une semaine ou un peu plus si on a de la chance, où on garantit que les gens seront présents. Mais c'est tout un travail au long cours, où là, enfin nous, la date, on l'a reportée à plusieurs reprises, parce que c'est un travail extrêmement long de démarchage. Nous, à notre échelle, en tout cas, on en est là, pour faire une vraie sortie, c'est-à-dire avec au moins une salle à Paris, et 5-6 salles, je pense qu'on sera sur moins de copies que le film de Luc. Mais pour faire une vraie sortie, il faut évidemment que ça soit représenté à Paris, éventuellement en banlieue, et puis ensuite dans 5 ou 6 régions. Donc là, effectivement, on salue le soutien de certaines régions plus dynamiques que d'autres, type Cinéphare pour citer la Bretagne. Où c'est vrai que là, on a des interlocuteurs qui ne sont pas juste les exploitants, c'est vraiment des gens où là, d'un coup, presque ils font mon travail. Alors je souffle un peu, quoi. Ils soutiennent, ils aiment le film, ils font l'intermédiaire, ils nous font arriver sur un peu, pas un tapis rouge, mais juste sur, on est identifié, on peut sonner à la porte de quelqu'un qui va nous ouvrir. Et puis parfois, pas du tout, quoi. On arrive chez les gens et on a ce paradoxe. On a fait des prévisionnements dans des regroupements d'exploitants où on a des éloges sur le film. Donc là, on se dit, ah ben super, donc on va le sortir chez vous. Donc. Et puis non.
C'est l'exploitant qui a aimé le film et qui n'arrive pas
à imaginer comment il peut le montrer. C'est pas pour jeter du tout la pierre, parce que c'est parfois des bourgades ou des choses où on se doute bien que travailler le public sur cette thématique-là, nous on est sur un film...
En revanche, il y a une réalité qu'il faudrait mettre à jour, qui est celle-ci des séances de prévisionnement. Et quelle est la parole qui est posée sur le film, enfin, pour être assisté à certaines d'entre eux. Enfin, c'est un truc complètement... C'est totalement vertigineux, quoi. C'est-à-dire que quand on voit le trajet de la production, et qu'en dernier lieu, des organismes sont payés pour faire ce lien-là, et quand on voit le vide de la parole qui est posée, je me souviens d'une situation où à 10h du matin, le type s'excusait de nous montrer un film roumain à 10h, là on se dit, non mais c'est mais comment peut-on on est sur le dernier maillon qui est censé mettre de la vie. Donc effectivement... Qu'est-ce que c'est qu'un exploitant aujourd'hui? Enfin, c'est ça, là, il y a une réalité sociologique dont on ignore tout.
J'entends ce que tu dis sur les prévisionnements. Après, pour nous, qui envoyons des DVD et des liens Vimeo à tour de bras, où on n'a aucune garantie si les gens vont les voir ou pas, et la plupart du temps, en gros, vu que nous, on n'est pas du tout identifié, en gros, c'est non, sauf si j'appelle 15 fois que je vais gratter à la porte, Et le prévisionnement, on se dit, et les gens qui sont là, parce qu'après aussi, les regroupements, ils s'excusent un peu ce que tu disais, parce que s'ils montrent trop de films difficiles ou radicaux, de ce que j'ai entendu, ensuite, les exploitants viennent tout simplement plus, quoi.
Au final, c'est le jugement subjectif de l'exploitant qui fait venir ou non truc dans sa salle. Et quand on voit les bagages qu'il a, même culturellement par rapport au cinéma, ça tombe des bras. Quoi.
Gineuf, je suis bien d'accord. Après, pour nous, c'est un vrai truc où là, on a la garantie qu'au moins il y ait 7 à 15 exploitants qui sont là, à qui on peut parler, qu'on voit pour une fois, qui ont vu le film. Parce que combien, moi, j'en ai vu qui ont regardé le film, au bout de 10 minutes, ils ont arrêté.
Mais tu vois, par exemple, si on reprend le rôle des festivals, qu'il y a l'engagement des festivals qu'il peut y avoir à cet endroit-là, je m'interroge sur. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un truc à faire, c'est-à-dire que le milieu des exploitants soit davantage en lien avec les festivals et que les séances de prévisionnement soient aussi encadrées par des gens qui sont engagés dans la diffusion. C'est-à-dire qu'ils puissent, je me souviens très bien, être intervenu sur le film d'Aurélia Barbet, qui est une jeune cinéaste de Marseille, parce qu'ils avaient vu un film, ils n'avaient rien vu en fait. Ils n'avaient pas vu que la trame qu'il y avait au fond se jouait autour de la question de la place de la femme et que l'homosexualité arrivait comme ça. Mais ils n'avaient rien vu de tout ça. C'était, oh oui, c'est un peu bleu, c'est pas terrible. Enfin, donc il faut quand même...
C'est exactement la logique qu'a eu l'ACID, puisque l'ACID, grosso modo, c'était créer un regroupement de réalisateurs qui ont voulu, à l'origine, mais du coup, créer l'événement à Cannes, puisque à Cannes, il y a les exploitants qui viennent de toute la France, de partout, et qui viennent. C'est le seul endroit, c'est le seul festival où vraiment les exploitants, les exploitants de cinéma viennent. Et où ils avaient leur place privilégiée aussi. Et là, cette année, par exemple, c'était la bronca à Cannes, parce que les exploitants sont beaucoup moins mis en valeur, ils ont de plus en plus de mal à rentrer dans les salles à Cannes. Et c'était la grosse guerre, là, cette année. Et je crois que ça fait 2 ans que ça commence à être comme ça, où on privilégie les journalistes du monde entier, etc. Mais je sais pas, moi, le travail des festivals par rapport à ça, j'ai l'impression que des festivals comme La Roche-sur-Yon ou La Rochelle cherchent aussi beaucoup à faire venir les exploitants. Mais
La Rochelle, oui.
Enfin, La Rochelle.
Parce que, pas, c'est ce que je connais mieux, oui, La Rochelle.
Je pense au réseau Accor, par exemple, qui fait un vrai boulot, qui est donc dans la région ouest Bretagne, qui est, je crois, le plus gros rassemblement de salles, qui eux ont fait un lien avec
la Bretagne, la région centre,
la Vendée. C'est un énorme truc. Et là, il y a une proposition, je trouve, de circulation intra-réseau qui compte aussi des festivals, qui est vachement important. Parce que c'est vrai ce que tu dis en même temps, les séances de prévisionnement auxquelles j'ai assisté, les exploitants qui étaient là étaient des gens qui faisaient plutôt partie des militants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont contents de venir écouter une parole, c'est-à-dire qui acceptent d'être un peu déplacé, parce que la réalité des petits exploitants, c'est qu'en dehors des gros blockbusters américains, ils montrent rien, en fait. Donc, c'est des gens qui sont souvent mis leur vie là-dedans, qui avaient une certaine pensée du cinéma il y a 30 ans, 40 ans. Enfin, je veux dire, il y a un terreau, quoi.
Ils savent. Moi, ils m'ont dit, on fait pas notre boulot. Ouais. En fait, tu as proposé tel film de 40 minutes, nous, du 40, on peut pas. Donc, il faut monter une programmation, c'est super excitant aussi. Donc, tu te dis, OK. Et en fait, le mec... dans un sourire extra lucide, c'est-à-dire il sait très bien que il y a une forme d'ironie, je me demande comment et il arrive à vivre avec ça, c'est-à-dire que c'est le mec, tu te pointes au cinéma, le projectionniste va le chercher, il descend illico, il est là pendant une heure avec toi, à parler de diffusion, de distribution, de toutes ces choses, il est là, quoi. Et justement, je voudrais quand même en venir au lieu dans lequel on est. On est dans une salle qui ressemble à une salle de cinéma. Il y a des fauteuils rouges, il y en a 50. 49 pour les normes, très bien, merci de le dire. Et apparemment, il y a un écran, il y a la place pour un écran là, derrière vous, devant vous, à côté de moi.
Donc, Justine, voilà, et moi, sommes-nous Justine.
Ouais, voilà. Sommes-nous Justine. Non, mais, et quel regard on porte tous sur ce lieu, toi déjà?
Alors, du coup, déjà, peut-être pour rebondir par rapport à ce qui s'est dit, parce qu'il y a quelque chose qu'on entend. Alors bon, nous ici, avant de rentrer dans le qu'est-ce que c'est que tout ça, par le fait de dire peut-être quand même, parce que c'est assez important, que c'est une salle associative non commerciale, donc nous ne sommes pas des exploitants. Et chose qui est quand même assez importante, parce que y compris dans les échanges qu'on peut avoir, que ce soit avec les auteurs ou les producteurs, évidemment, ça dépend, pas tous, mais c'est presque cette salle, elle compte pas. C'est-à-dire, elle compte pas, parce que vis-à-vis du CNC, c'est amateur. C'est-à-dire, tout ce qui est associatif et non commercial, c'est considéré comme de l'amateurisme. Et tout à l'heure, on parlait justement de ces lieux, des centres sociaux où on peut faire des projections, les espaces culturels, enfin voilà, toutes les salles en fait qui existent, qui sont pas des cinémas commerciaux, mais qui existent et où on peut voir du cinéma et pas du cinéma amateur, parce que quand même c'est drôle, on a eu un article dans les Cahiers du cinéma, alors on s'est dit waouh, génial, et en fait la seule chose qu'ils ont retenu, alors qu'ils ont quand même passé 3 jours ici, c'est qu'on projetait des films faits par des réalisateurs de la région. Alors là on s'est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire
c'est
que...
C'est de nous protéger en fait, parce que n'oublie pas quand même que tu dis amateur, mais le CNC interdit, c'est-à-dire limite à 6 séances ou 10 séances, je ne sais plus, par an, les projections qui sont... Donc il faut développer toute une espèce de stratégie, un peu pirate, un peu officiel, inofficiel.
On est en plein dedans. Enfin, du coup,
et que vous avez inventé des choses ici pour pouvoir faire
ça. Ce que nous, on a voulu faire, bien sûr, c'est d'inventer des choses, parce qu'on en est tous là, de toute façon.
Tu peux préciser ça quand même, Justine, cette interdiction, du coup?
Oui, oui. Bon, alors oui, il y a une réglementation qui est très forte, mais d'ailleurs, les festivals aussi sont très réglementés. Enfin, tout le monde rentre dans sa petite case. Et donc, la petite case cinéma non commercial, c'est en effet d'être limité à 10 séances. Alors, c'est un chiffre comme ça, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais 10 séances payantes par an sur les films avec visa. Attention, hein. Donc les films dits professionnels, puisque ceux qui n'ont pas de visa, c'est les films amateurs. Donc c'est comme ça que c'est présenté. Hein. Donc ce qui veut dire que déjà ça laisse évidemment de la place pour des diffusions gratuites. En revanche, qui dit diffusion gratuite, dit pas que organiser une projection, c'est gratuit. Hein, donc ça nécessite quand même de payer des droits de diffusion. Ensuite, ça laisse aussi la place aux courts-métrages, puisque ceux-là ne rentrent pas. Donc oui, voilà, j'ai oublié de dire ça, c'est 10 films longs-métrages avec visa. Donc les courts-métrages, c'est encore autre chose. Les films donc sans visa, c'est encore autre chose. Ensuite, il y a aussi une autre réglementation qui concerne les ciné-clubs, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça existe encore pour le CNC, alors qu'en fait, il y en a quand même assez peu comparé à ce qu'il y avait il y a 30 ans, 40 ans, à Marseille notamment. Donc là, ça nous a demandé de créer une deuxième structure associative, chose que je dis rarement, en fait, parce que tout de suite, ça devient super compliqué. Donc, en fait, on a une deuxième association qui est uniquement une association de ciné-club, puisque quand on a un ciné-club, on a interdiction. Quand on
est et dont le siège est aux îles Caïmans.
Donc voilà, quand on est une association de ciné-club, on a interdiction de montrer d'autres films que ceux du catalogue ciné-club auquel on est affilié. Mm-hmm. Donc ça, c'est encore une autre contrainte. Donc ça nous oblige à créer une deuxième assoce, puisque si avec la même association, on faisait des projections non commerciales, mais qu'en plus on diffusait des films du catalogue ciné-club, là, c'était pas possible. C'est le ciné-club qui commençait à nous taper sur les doigts. Donc, bon, là, comme ça, ça a l'air de passer. Donc, c'est complètement... Enfin, c'est de l'administration, en fait, tout ça. Hein. C'est ouais. Du papier, quoi. Autre papier qu'on a mis en place, mais qui était aussi, là, vraiment une volonté de notre part aussi, c'était, bien sûr, de travailler avec les structures de production, de programmation, les festivals, enfin, tous les gens qui sont actifs... dans l'accompagnement des films, eh bien là, c'est du coup de faire bénéficier chacune de ces structures associatives ou autres de leurs 10 séances payantes par an. Donc c'est-à-dire que les programmateurs externes qu'on accueille dans cette salle signent aussi une convention et sont porteurs d'un certain nombre de programmes qui se déroulent ici. Donc c'est pas nous, c'est pas notre association qui les porte. Donc ça nous permet, en ayant un certain nombre de partenaires, de pouvoir finalement avoir 300 séances par an, on va dire, puisqu'on a entre 5 et 10 séances par semaine.
Moi j'aimerais bien savoir, déjà en partant de Justine, puisque tu es la seule représentante du Vidéodrome aujourd'hui, mais vous êtes quand même une grosse équipe. Donc déjà, toi, où t'en es par rapport à ça? Parce que c'est écrit « cinéma de quartier » devant. Et j'ai entendu des gens au téléphone dire « Ouais, je suis au Vidéodrome, tu sais, le bar sur le Courjus. » Et j'étais derrière, je faisais cinéma. Donc voilà, je voudrais voir comment toi, tu vis ce lieu qui, en fait, s'est monté sur 3 ans bénévolement. Aujourd'hui, il y a des salariés, mais pendant 3 ans, c'était bénévole. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie foi, une croyance, avec des hiatus, avec des malaises.
Bah, de toute façon, toute la discussion qu'on a eue, là, je vais pas la refaire, mais moi, avant ça, j'étais, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis comédienne et cinéaste un petit peu aussi, un bébé. Et du coup, évidemment, l'envie de créer ce lieu, elle est partie du fait que, bon, d'une part, comme on l'a dit aussi, Marseille est quand même très très pauvre en salles, plein de films ne sortent pas ici. Deuxièmement, comme je faisais aussi des films, je me disais, bon, attends, il va bien falloir trouver des endroits pour les montrer, tous ces films. Pas pour montrer mes films, mais pour montrer les films qui existent, qui sont là et qui n'ont pas de lieu, justement, pour les montrer. Donc déjà, il y avait quelque chose de quand même intime, fort, qui est bien au-delà de gérer un lieu, justement. En fait, ce truc de gérer un lieu... C'est une fois qu'on est dedans, finalement, qu'on se rend compte qu'est-ce que c'est. Et alors, c'est super prenant. Après, on a quand même la chance d'être des personnes très différentes, les personnes qui sont dans cette équipe, qui ont toutes leurs forces et leurs faiblesses aussi, mais qui apportent toutes des choses. Que ce soit par leurs expériences antérieures, les personnes qu'elles connaissent et qu'elles peuvent amener ici, que ce soit par leurs compétences, que ce soit par leur tempérament aussi, voilà, et comment elles rencontrent les gens ici sur place, parce que c'est en fait le gros du travail se fait aussi ici, je crois. Donc moi, comment je le vis personnellement. Étant notamment en charge de la communication, je suis justement assez peu sur place quand je fais ça, c'est un travail assez seul, mais dont je sais qu'il a vraiment une importance capitale, donc ça me fait du bien enfin, de le savoir. Et ensuite, ici, bah, comme tu disais, justement, cette personne qui dit « je suis au Vidéodrome, le bar sur le cours Julien », en fait, comme je disais, quand elle arrive au comptoir, bah, elle se rend compte qu'elle n'est pas juste dans un bar. Et donc, pour moi, c'est là où il y a quelque chose de gagné, c'est-à-dire que ce soit les gens qui étaient déjà des habitués du Vidéoclub et qui, aujourd'hui, viennent voir des films régulièrement, ça, je me dis que c'est génial. Enfin, ça, c'était le premier pari. Ces gens-là, ça va être des gens qui vont potentiellement venir boire des coups, mais qui vont aussi venir voir des films. Et donc, super, quoi. Il y en a. Et c'est des gens qui habitent le quartier, en fait. Donc, on disait cinéma de quartier. Et pour eux, ce lieu, les retours que j'ai, c'est fondamental que ça existe. Ça devient leur repère. Ça devient leur repère, que ce soit pour boire un café, mais moi, ça ne me pose pas du tout de problème qu'ils viennent tous les jours boire un café et que peut-être qu'ils viennent qu'une fois par mois voir un film. Mais c'est pas grave. Si pour eux, ce lieu, il a un sens, et parce qu'eux aussi, ils trouvent que c'est sympa, qu'on peut discuter avec les gens, que c'est convivial, bah ça, c'est hyper important. Et justement, enfin, voilà, on parlait de médiation, entre guillemets, mais c'est ça aussi. C'est
que les gens, c'est ça. Les lieux de café où les gens peuvent rester et puis vraiment discuter, etc., bon, aujourd'hui, il n'existe plus beaucoup.
Bah ouais, moi, je me dis que d'abord, avant de le... Enfin, pour qu'ils aient envie d'y vivre et de venir voir des films et de nous faire confiance, parce que tout à l'heure, je parlais de la surprise, c'est-à-dire que ils savent qu'il y a des films qui passent tous les mardis soirs, tous les soirs et tout ça, et qu'ils puissent venir les yeux fermés. Parce que ici ils se sentent bien et qu'ils ont confiance en ce qui s'y passe, et ben là, ce serait vraiment... c'est gagné. Enfin, si ça se passe, pour moi, la moitié du travail est faite. Une bonne partie est faite.
Je vais juste dire qu'on a dépassé l'heure et demie et qu'il y a une projection qu'on va devoir faire les tests.
Ah ouais,
c'est tout. Luc, à un moment, tu as levé la main pour dire quelque chose. Est-ce que...
Non, c'était un peu en réaction, je ne sais plus si c'était Julien ou Tard, qu'on parlait à la question du temps. Je pense que, enfin moi en tant que cinéaste, c'est vrai qu'il y a une... J'allais utiliser le mot revendication, mais ce n'est pas ça. Il y a une volonté dans le travail qu'on fait de prendre le temps de faire nos films, de ne pas être sous la pression... de la production des coproducteurs, etc. Ce qui compte pour nous, et c'est un peu la chance qu'on a avec le producteur avec, qui travaille avec nous en, depuis deux films, c'est que c'est quelque chose qu'on partage, que le seul temps qui compte, c'est le temps du film, et qu'après, les autres temporalités, elles doivent se mettre au diapason de ça. Et c'était pour... Je rebondissais un peu sur ce que disait Tahar, qu'un film, à partir du moment où il existe, il faut qu'il soit vu. Certes, mais je pense qu'il y a aussi le temps nécessaire pour l'amener au public, pour construire le public autour du film. Je pense que ce dont on souffre tous, les uns et les autres, que l'on fasse des films, que l'on produise des films, que l'on accompagne des films dans leur rapport, dans leur rencontre au public, c'est que ça va trop vite aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et donc, si on sort pas...
Et qu'ils ne gardent pas le film, le problème, c'est ça.
Oui. Et parce que c'est une c'est d'autres logiques, c'est ce que tu disais au début, qui imposent leur temporalité.
Un film aurait un sens aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine et l'autre, et pas dans 3 ans, 4 ans. Il peut avoir plus de valeur après.
Bien sûr.
Il y a des films comme ça, enfin, comme Le Vin, comme, enfin, il y a des films qui résistent au temps. Quoi. Or, le temps qui est imposé au film n'est pas celui qu'on demanderait au film.